Berlin.
It's morning edition from NPR News.
Let's see things on in the house. Hi,
I'm Radio Rosalie Paris.
Produce get on the radio.
France Inter, le 18-20.
Quelle fin de mandat pour Donald Trump? Sur quoi part-il dans 13 jours maintenant? Sur le symbole de la démocratie américaine envahie par des manifestants bigarrés, mais pas seulement. Il part sur une séquence sur laquelle nous sommes tous restés scotchés hier soir, dont il restera des traces pour la démocratie américaine, pour le parti républicain assurément, et aussi partout dans le monde. Certains pays n'ont pas fini de rire à ce spectacle. Nous allons essayer de balayer tout ça ensemble, parler aussi institutions, démocratie, avec une question qui va traverser notre discussion ce soir, ce à quoi nous avons assisté hier soir. Est-ce que c'est le début ou la fin de quelque chose? Ne perdons pas de temps, l'Amérique décidément est bien imprévisible et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Synthès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Laurence Nardon.
Bonsoir,
responsable du programme Amérique du Nord à l'IFRI. Anne Desine est là également, bonsoir. Vous êtes professeur de droit et de civilisation américaine à Nanterre. On ira faire un tour aux États-Unis dans un tout petit instant, rejoindre Edouard Berenson. Laurence Nardon, je vais commencer avec vous parce qu'on s'est parlé hier, c'était ici même, à la même heure, au même endroit, à peine quelques minutes avant tout ce qui s'est passé, puisqu'on était au milieu du discours de Trump. Et je me souviens très bien que juste après, il s'est donc passé ça. Le fait est qu'on ne l'a pas vu venir et je me souviens très bien de ma première question. Je vous ai dit, c'est quand même fou, ces manifestations sont là depuis le 3 novembre, mais on les a pas vraiment vues, les gens n'ont pas vraiment bougé et vous m'avez répondu, c'est vrai que c'est pas trop le genre de cette mouvance-là. Qu'est-ce qui s'est passé hier pour que cette fameuse mouvance-là change subitement de braquet? Est-ce que c'est uniquement opportuniste ou y a-t-il évidemment autre chose derrière?
Alors, de toute manière, Washington s'était préparé, hein, on l'avait dit hier, tous les magasins étaient protégés dans toute la zone de Capitol Hill à Washington.
La police était moyennement là, on y reviendra, mais oui, les magasins étaient protégés. Ouais.
Je crois que ce qui s'est passé hier, c'est que cette foule avait été appelée par Trump, qui avait préparé, annoncé cette manifestation à 11h du matin à Washington, qu'il est venu leur parler et qu'il les a chauffés à blanc, et que donc on a vu cette foule manifester de manière assez violente. Et s'en prendre, et c'est donc un symbole absolument incroyable, donc on va en parler toute l'heure, qui se sont donc attaqués au Capitole, le symbole de la démocratie, du pouvoir législatif américain.
Et aujourd'hui, ce soir, avec le recul de presque 24 heures, donc qu'est-ce que vous dites? Est-ce qu'on est dans une forme d'insurrection? Est-ce qu'on est dans une forme de sédition, puisque c'est des mots qui ont été présentés de la part du côté du président Trump? Est-ce qu'on est dans une manifestation qui tourne même au corps défendant presque des manifestants qui n'imaginaient pas aller jusque-là? Quel mot on emploie presque 24 heures après?
Oui, alors pendant que ça se déroulait hier, on ne savait pas où ça allait s'arrêter, jusqu'où ça allait nous emmener. Les mots de sédition ont été prononcés, d'insurrection, etc. Alors, avec uniquement, même pas 24 heures de recul, moi j'ai envie d'être plutôt optimiste, mais peut-être que c'est une discussion qu'on va pouvoir ouvrir. Je trouve que ce qui s'est passé hier, finalement, il y a eu des morts.
Oui, il y en a eu 4.
Faut pas plaisanter, le symbole était extrêmement lourd, etc. Mais finalement, dès que la garde nationale a repris vraiment le contrôle, ça n'a pas été fait tout de suite, mais donc le Capitole a été sécurisé. Et la conséquence politique de ces événements dramatiques d'hier, c'est quand même que les républicains, pas tous, mais un certain nombre de républicains très importants, ont franchi le Rubicon, c'est-à-dire qu'ils ont cessé d'encourager Trump dans son délire sur la fraude de l'élection du 3 novembre, et ils ont dit non, là maintenant on arrête, je reconnais la victoire de Joe Biden. Et ça c'est le cas de Mike Pence, qui a donc certifié l'élection dans la nuit, c'était à 3h44, heure française, heure de Washington,
heure américaine,
pardon. Mais aussi Mitch McConnell, donc le chef, le leader des Républicains au Sénat, a dit lui aussi, on arrête les frais, je reconnais la victoire de Joe Biden.
Et alors en même temps, puisque essayons d'être aussi du côté pessimiste, Anne Desine, c'est vrai que des Républicains ont quitté le navire comme une espèce de trop-plein, trop c'est trop, mais il n'y a pas de révolte de masse de l'intérieur non plus au moment où de cette réunion au Sénat. Il devait y en avoir une douzaine, il y en a quand même 6 qui ont contester les résultats, ces gens sont bien là. Est-ce que ça veut dire que définitivement ce parti a un bloc populiste désormais avec lequel il va devoir composer? J'irai même plus loin, est-ce que Mitch McConnell ne tient plus son parti? C'est terminé.
Oui, Mitch McConnell a du mal, parce que lui, il avait demandé aux sénateurs, justement, qu'il n'y ait aucun sénateur qui conteste la certification, parce qu'il n'avait pas anticipé la prise de pouvoir sur le Capitol Hill, mais il savait que ça fracturerait le parti. Et c'est ce qui s'est passé, et maintenant, le Parti républicain est vraiment fracturé. Nous avons deux ailes, les légitimistes, si l'on veut, c'est-à-dire le leadership, qui, après avoir encouragé Trump, pour des raisons partisanes, bassement partisanes, a compris que le danger était réel pour les institutions, pour la Constitution. Donc c'est Mitch McConnell, le chef de file républicain, c'est aussi Lindsey Graham, qui était un de ceux qui a vraiment ce qu'on appelle un enablers, qui a tout accepté de Trump pour des intérêts partisans. Et puis de l'autre côté, nous avons une partie, alors des républicains de base, qui ont besoin des 74 millions d'électeurs de Trump pour l'avenir, qui ont encore un peu peur de Trump, parce que Trump les a bien menacés par tweet. Je note ceux qui sont avec moi, je note ceux qui vont contester la certification, et les autres, vous allez voir, ma vengeance va tomber sur vous. Et puis nous avons évidemment, et c'est pour ça qu'il y a quelques sénateurs, ce sont ceux, dans l'ensemble, qui sont candidats, qui pensent à une candidature en 2024, c'est-à-dire Hawley et Cruz. Et ce qui est très très grave pour ces deux-là, c'est que ce sont des juristes de haut niveau qui ont fait leurs études à Yale, donc des juristes constitutionnalistes qui ont fait les deux, non pas un stage, mais qui ont passé un an comme assistant d'un juge à la Cour suprême. Donc en faisant ça, ils savent exactement le préjudice, le dommage qu'ils infligent aux institutions. Et donc on a ces deux camps, et ça c'est la bonne nouvelle, je suis d'accord avec Laurence. Pour Biden, c'est terrible ce qui s'est passé hier, mais le choc a été tellement fort pour une partie du leadership républicain et pour certains des membres du Congrès républicain qui sont un petit peu centristes, qu'ils vont peut-être accepter de travailler un petit peu avec Joe Biden.
Parce et qu'il comme... faut faire retomber ce soufflet-là, en fait, remettre la démocratie en l'état. Il a fini par reconnaître sa défaite, alors il le fait avec ses mots, c'est-à-dire que...
D'accord.
Alors oui, c'est vrai, vous avez bien raison. Il dit effectivement qu'il y aura une transition qui se fera de manière souple, donc il ne va pas s'opposer physiquement à l'arrivée de Joe Biden, c'est comme ça que je le comprends, tout en ne reconnaissant toujours pas sa défaite. Est-ce qu'on sait, Laurence Nardon, qui, à un moment quand même, lui murmure à l'oreille en lui disant Tu dois le dire, ça. Tu es obligé de le dire à ce stade-là. On sait qui c'est, ça, ou pas ?
Non, je n'ai pas lu dans quelque journal que ce soit le nom de là ou des personnes qui entourent le président aujourd'hui. On sait que son cercle familial est là, donc c'est peut-être Jared Kushner et Ivanka, sa fille, qui le lui soufflent. Mais bon, ce sont des spéculations.
Est-ce qu'il craint pour sa postérité aussi, un peu ? Est-ce que c'est aussi pour ça qu'à un moment il calme le jeu, ou ça rentre pas du tout en ligne de compte sur ce qu'on dira de lui après ?
Alors, je pense que Trump est un narcissique pathologique, donc je pense pas qu'il puisse se projeter dans l'avenir sur... il faudrait demander à un psychologue, je vais pas dire de bêtises ce soir.
Mais sur l'idée de ce qu'il reste, de ce qu'il laissera, de la trace qu'il laissera dans l'histoire.
Je pense qu'il est dans l'instant, et que ce qu'il veut, c'est ne pas reconnaître sa défaite, parce que être vu comme un loser, pour lui, c'est l'abomination, c'est une douleur insoutenable. Et donc, cette psychologie de Trump, on la voit à l'œuvre depuis longtemps, mais là, c'est absolument exacerbé depuis qu'il est devenu un loser le 3 novembre. Et puis, mais ce ne serait rien s'il n'avait pas eu, comme le disait Anne tout à l'heure, tous ces enablers, ces facilitateurs, c'est-à-dire ces élus républicains qui, pour des raisons personnelles de trajectoire électorale, l'ont soutenu. Et d'ailleurs, je voudrais dire quelque chose sur lequel je pense que Anne Desine sera tout à fait d'accord. L'importance des juges depuis le 3 novembre, qui même s'ils étaient républicains, on pense aux trois juges que Trump a fait nommer à la Cour suprême, eux n'ont pas à faire face à une élection, puisque souvent ils sont nommés à vie, ceux de la Cour suprême et puis d'autres aussi. Et eux, du coup, ont pu se détacher des menaces du président Trump pour reconnaître que les recours étaient abusifs, frivolous, et qu'il fallait reconnaître qu'il n'y avait pas eu de fraude.
Une question pour la constitutionnaliste que vous êtes. On entend parler du 25e amendement, on entend parler d'une éventuelle destitution. Et c'est intéressant parce qu'on sait bien qu'en temps, il reste 13 jours. Donc tout ça n'a pas vraiment de sens en soi. Est-ce que symboliquement, je vois que le chef démocrate du Sénat appelle à démettre Trump de ses fonctions. Est-ce que symboliquement, on va vers cette démarche-là ? Est-ce que ça a du sens de faire ça ou pas ?
Alors il y a des arguments pragmatiques et des arguments juridiques. Pragmatiques, son entourage à la Maison-Blanche est très inquiet. Il ne reste que 13 jours, mais nous savons maintenant qu'en 13 jours, il peut faire beaucoup de dégâts. Les arguments juridiques, c'est Il y a eu tellement d'avus, tellement de violations du droit, tellement de violations de la Constitution, non seulement pendant les 4 années, mais au cours des dernières semaines, que quelque part, il faut marquer le coup, il faut donner un tout et dire ce type de comportement est inacceptable dans la culture politique américaine, dans la Constitution américaine, et donc quelque part, il faudrait sanctionner. Alors, que peut-on faire? Le 25e amendement, c'est quelque chose de différent. Ça viserait à essayer de se débarrasser de Trump dans les 13 derniers jours. Il a été mis en place pour régler un problème pratique qu'on avait bien vu, c'est que certains présidents étaient malades, que certains présidents étaient victimes d'un attentat, qu'ils disparaissaient de la circulation, qu'il n'y avait aucun mécanisme prévoyant de confier le pouvoir au vice-président. Donc c'est ça essentiellement le 25e amendement. Si le président est dans l'incapacité de gouverner, le vice-président s'occupe du boulot. Et puis on a rajouté, ceux qui ont fait les amendements, ont rajouté une section 4 qui envisage une hypothèse qui est celle à laquelle nous pensons aujourd'hui, qui est si le président n'admet pas qu'il est dans l'incapacité de gouverner, mais que c'est la conclusion du vice-président et d'une majorité du cabinet, il est possible de lui demander de confier le pouvoir au vice-président. Un petit peu contre son gré, il faut faire intervenir...
Qui lui demande ?
Alors, c'est le vice-président avec l'aval de la majorité du cabinet. Et ça doit être contrôlé et vérifié par le Congrès. Mais là, c'est vrai que Mike Pence a respecté la loi et la Constitution, donc il a certifié le résultat des élections. Mais je ne le vois pas, personnellement, lâcher le président maintenant et aller jusqu'à lui piquer le pouvoir dans les derniers jours. Donc je pense que ce n'est pas faisable. Alors l'impeachment, il est clair que ce qu'il a fait sont des actes qui sont passibles d'une mise en accusation. Là encore, nous avons 13 jours, est-ce que ça vaut la peine? Alors, il reste les poursuites par le département de la justice. Et là, le président Biden va avoir un dilemme terrible, parce que le département de la justice peut tout à fait poursuivre M. Trump pour abus de pouvoir, pour incitation à la fraude électorale. Il y a des textes de loi fédérales, et puis peut-être dans les États, en Géorgie en particulier, il y a aussi des lois qui ont été violées. Mais si on reste au niveau fédéral, si le département de la justice de Biden commence à instruire des poursuites, à diligenter des poursuites, ce qui va se passer, c'est qu'immédiatement toute la blogosphère de droite va crier à l'acharnement partisan et ça va à l'encontre de ce que souhaite Biden, qui est un apaisement. Cela étant, ma vue et la vue de l'aile gauche du Parti démocrate, c'est quelque part, il faudrait quand même qu'il soit écrit noir sur blanc dans une procédure ou dans un rapport d'une commission d'enquête que certains comportements sont inacceptables.
Au fond, c'est une décision qui n'est pas juridique, mais qui est politique.
Tout à fait, opportunité politique.
Voilà, la question c'est, est-ce qu'on appuie, encore une fois? Je pense à ça, mais je pense aussi au fait qu'il a été exclu de Facebook, d'Instagram, etc. Peut-être que l'une des solutions, c'est...
Ça, c'est intéressant.
Il faut faire taire, en fait. Et donc, faire taire, c'est pas de choses juridiques immédiatement sur lui. Laissons les comptes fermés et on fait le gros dos. On attend le 13 jours, en fait, non ?
Oui, absolument. Finalement, peut-être que la punition personnelle la plus terrible pour Trump, c'est, je reparle de son narcissisme, ce serait de l'ignorer, de ne plus parler de lui. Mais effectivement, d'un point de vue éthique et moral, il y a quelque chose de gênant à ne pas punir ce comportement. Alors, j'ajoute, c'est peut-être une question à Anne.
Allez-y, je vous en prie, faites comme chez vous.
Il y a aussi pas mal d'actions juridiques qui sont intentées à Trump en tant que personne civile sur ses affaires, sur son business, n'est-ce pas? Donc ça, c'est encore autre chose.
Oui, alors c'est-à-dire que même s'il y avait
et donc
grâce...
ça, c'est dans 14 jours, en quelque sorte, dès qu'il sera plus président.
Même s'il y avait une grâce, c'est-à-dire soit une auto-amnistie, qui quand même pose des tas de problèmes sur le plan juridique, soit il démissionne, ce qui m'étonnerait, et Pence le gracie, il restera les actions en justice par les États. Donc le procureur de New York, Cyrus Vance, sur toutes ces affaires, la fraude fiscale, la fraude à l'assurance, etc., plus le harcèlement, plus le viol, donc toutes ces affaires restent. Et puis l'État de Géorgie... Bon, alors c'est vrai qu'il est dirigé par des républicains, donc il n'est pas certain que l'État de Géorgie va vouloir poursuivre. Mais on pourrait poursuivre la fraude électorale.
Bonsoir Edouard Berenson.
Oui.
Ah, formidable. Vous êtes historien, directeur de l'Institut d'études françaises à l'Université de New York. Là-dessus, moi je voudrais savoir ce qui se dit en fait aux États-Unis en ce moment. Y a-t-il une tentation juridique pour marquer le coup, effectivement, comme le disaient nos invités à l'instant? Ou est-ce qu'on se dit plutôt aux États-Unis que politiquement, il faut d'abord remettre cette démocratie sur de bonnes bases solides et que le reste finalement passera à l'as?
Excusez-moi, mais le son, la qualité du son est très mauvaise, mais je crois que vous m'avez demandé des questions autour des problèmes juridiques.
Des poursuites.
Et surtout du 25e amendement. Et je pense qu'il sera difficile de destituer Donald Trump par cette voie. Parce que si, même s'il y a une majorité dans le cabinet, dirigée par le vice-président, Trump a le droit de contester cette décision. Et s'il conteste la décision, il faut que deux tiers des deux chambres soient d'accord pour qu'il puisse sortir. Je pense que la meilleure solution, c'est qu'il démissionne avec peut-être la promesse de lui de donner la grâce. C'est-à-dire, si Trump démissionne, Pence devient président et il aura le droit de pardonner, de donner grâce à Donald Trump. Je ne pense pas que ça va arriver. Le président, c'est la situation sous la présidence de Nixon. Et là, il y avait un grand personnage au Parti républicain, James Baker, qui avait la puissance d'aller à la Maison-Blanche et de dire honnêtement à Nixon qu'il fallait démissionner. Mais je ne vois pas de grand personnage pareil aujourd'hui.
Et surtout capable de le convaincre de ça, probablement, ce Donald Trump. Edouard Berensom, Trump, on l'a dit, n'est pas sorti de sa bulle idéologique, y compris lorsqu'il dit qu'il y aura une transition qui se fera de manière douce. Il n'est pas sorti de son incapacité à reconnaître sa défaite. A-t-il, avec ça, donné du fuel, de l'énergie à une autre carrière politique derrière sa présidence, ou a-t-il, au contraire, fait exploser une autre carrière politique, Donald Trump?
Oui, je suis d'accord que Trump crée sa propre réalité. Il y croit. Et je pense qu'il croit vraiment qu'il a gagné d'une marge importante l'élection. Et je pense que son projet aujourd'hui, c'est de se présenter de nouveau en 2024. Et la question, c'est est-ce que le Parti républicain va le suivre s'il se présente de nouveau? On ne sait pas encore, mais je pense qu'il y a toutes les chances de que cette possibilité arrive. Parce que les sondages montrent que trois quarts des républicains croient à ce mythe de l'élection volée.
Anne Desine, c'est vrai qu'il y a encore un pourcentage de gens qui croient à ça qui est extrêmement important. Maintenant, on a l'impression quand même qu'il y a une sorte d'avant et d'après. Y a-t-il effectivement un avant et après, y compris auprès de ces républicains-là? Sommes-nous sûrs que tous ceux qui jusque-là suivaient Trump, après ce qu'on a vu hier, sont toujours des électeurs d'un Donald Trump ou d'un parti républicain très populiste?
Ils sont toujours là. Mais il faut bien voir qu'un président qui n'est pas réélu au bout du premier mandat, généralement, il disparaît de la scène politique. Nous savons que Trump ne va pas disparaître, sauf si on lui supprime son compte Twitter et qu'il va continuer à commenter de façon négative chacun des actes de celui que j'ai tendance à appeler le malheureux Joe Biden. C'est pas facile d'arriver au moment où il arrive. De là à se présenter, je pense que Trump, malgré tout son narcissisme, etc., quelque part dans son fond de cerveau, il a compris que 7 millions de voix de moins que Biden et l'incapacité que le collège électoral qu'il avait sauvé une première fois le sauve une deuxième fois, il n'est pas sûr de gagner. Donc il va, à mon avis, je ne pense pas qu'il sera candidat en 2024, vous pourrez me dire si je me suis trompée, mais il va faire semblant
24.
D'être 24, oui, de continuer de façon à rester relevant, de bien peser sur le parti républicain et d'embêter ceux qui aimeraient bien se déclarer candidat. Mike Pence, Ted Cruz, Jim Holley, etc. Et donc, quelque part, il va continuer à peser de façon négative sur le Parti républicain, ce qui est peut-être d'ailleurs une bonne affaire pour les démocrates et pour Joe Biden.
Mais on se dit, quand on voit ces manifestants qui étaient là hier, que ce sont des Trumpistes hardcore. Seront-ils les mêmes hardcore face à un Ted Cruz, par exemple, ou face à un autre républicain réellement?
Alors, je pense que là, effectivement, le charisme et la personnalité un peu vraiment hors norme de Trump correspondaient bien à ces gens qu'on a vus hier. Enfin, c'est un petit peu les village people au Capitole à un moment.
Oui,
enfin,
oui,
les, types, enfin, les photos qu'on a vues.
Effectivement, les photos sont édifiantes.
Et je pense pas que aucun. Enfin, aujourd'hui, dans les personnes que Anne Desine a citées comme potentielles présidentiables de 2024 républicains, je n'en vois pas un seul qui ait le même effet galvanisant sur les foules populistes américaines. Néanmoins, ils vont rester là, effectivement. Mais pour revenir à Joe Biden. Là aussi, je voudrais être un petit peu optimiste, mais ça va être ma posture ce soir. Voilà.
Bah, vous en prie.
Peut-être que les faits me donneront tort, mais on verra. Joe Biden, quand même, a hier, je trouve, enregistré donc deux victoires. Celle une en Géorgie avec les deux sénateurs qui ont été élus, Ossoff et Warnock, qui lui donnent quand même beaucoup de facilité au Sénat pour nommer les membres de son cabinet, pour faire passer des lois. Enfin, alors, la loi de réconciliation peut passer à la majorité simple, donc ça va beaucoup l'aider. Enfin, ça lui facilite énormément le travail, ça c'est sûr. Et puis, l'autre victoire, j'y reviens, c'est que avec ces événements dramatiques du Capitole, il a un parti d'opposition républicain fracturé, un certain nombre de républicains modérés qui peuvent relever la tête. Donc je pense que par rapport à il y a 24 heures, l'horizon est un petit peu plus facile pour lui pour mettre en route son programme dont les Américains ont tellement besoin. Et au premier chef, faire baisser la tension dans la vie politique américaine, ce qui va être... Alors on sait qu'il est un peu âgé, un peu fatigué, etc. C'est peut-être une bonne chose pour calmer le jeu politique aux États-Unis.
J'ai une dernière question pour vous, Edouard Berenson. Vu de chez vous... Ah, il est parti, Monsieur Berenson. Ben, c'est pas grave, ce sera pour vous deux. Y aura-t-il une polémique autour des forces de sécurité à venir autour du Capitole? Il faut expliquer aux gens qu'il y a la police du Capitole, donc qui en général, les pauvres, ils gèrent des touristes hein, quand même, la police pure du Capitole. Et puis, il y a la police washingtonienne. Y aura-t-il une polémique autour de ça? Comment se fait-il qu'ils aient mis autant de temps à venir? On n'a pas vu d'arrestation à l'intérieur, de gens sortir menottés, on n'a rien vu de tout ça hier.
Il y a déjà une polémique, elle était déjà en route. Je regardais NBC hier soir, après vous avoir quitté, pour voir ce qui se passait là-bas. Et il y avait déjà des militants de Black Lives Matter qui disaient avec raison, c'est incroyable la mollesse et la douceur avec laquelle ces manifestants sont traités quand on voit les tanks et les équipements de sécurité qu'ont les policiers lors des manifestations raciales de l'été dernier. Bon, ceci dit, il y a eu une femme qui a été tuée par les forces de sécurité.
Il y a 4 morts et il y a eu 52 ou 53 arrestations.
Oui, mais c'est 400 quand ce sont les manifestations Black Lives Matter. Donc il y a vraiment un deux poids deux mesures et c'est un vrai problème. Mais pour défendre les forces de l'ordre, peut-être, il faut se rendre compte qu'aux États-Unis, le droit de manifester d'habitude est très encadré, vous le savez, et que quelque part c'était impensable. Chez nous, c'est plus acceptable. On a malheureusement les gilets jaunes, mais c'était impensable que le Capitole soit pris d'assaut, petit A, et petit 2, pour violer la Constitution, c'est-à-dire pour arrêter un processus constitutionnel qui est la certification des votes. Parce que la maire était prête à des violences.
Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y avait peut-être pas autant de monde autour du Capitole, parce que l'image donnée au moment d'une certification d'un Capitole cerné par les policiers, j'imagine que c'est une image qu'ils n'ont pas voulu donner tout de suite, sauf qu'il n'y avait personne derrière pour...
Oui, mais c'est aussi la faute de Trump, parce que théoriquement, l'endroit où il devait manifester, c'est l'ellipse. Et Trump a dit, mais ils sont trop loin. Et il leur a dit, allez vers le Capitole. Et donc, peut-être, le Capitole n'était pas suffisamment protégé.
Laurence Nardon, puis après, on ira voir qui étaient ces manifestants.
Allez, je voudrais rajouter quelque chose sur l'aspect visuel de ce qui s'est passé hier. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles les élus républicains, enfin certains, se sont enfin sentis obligés de lâcher Trump, c'est qu'il y avait quelque chose de la séparation des pouvoirs qui était en jeu. Puisque là, on voyait bien un président qui envoyait des manifestants violents pour certains d'entre eux vers le siège du pouvoir législatif. Et ils se sont dit, quand même, il faut défendre notre pouvoir législatif par rapport à l'exécutif.
Et le lieu du peuple, parce que le Congrès, c'est le lieu du peuple, premier pouvoir.
Et c'est vrai que c'est ça qui est aussi très impressionnant. La relation au Capitole des Américains est très particulière. Même si on n'aime pas le gouvernement fédéral, on va au Capitole pour voir à quoi ça ressemble, on va là où se fait le pouvoir. Ici, on a l'impression d'une espèce de perte de culture politique du pays. Et en même temps, on a vu un certain nombre de manifestants qui, à la fois, cassent un carreau, mais sont aussi capables de faire attention et pas marcher sur les moquettes. On a vu un peu ces deux images-là hier au Capitole.
Oui, au Capitole. Il y a aussi la bibliothèque du Congrès, dans laquelle est exposée la constitution originelle de 1787, comme dans une sorte de... On se croirait dans une église, c'est sous un dôme comme ça, c'est extrêmement impressionnant. Oui, il y a quelque chose de très très symbolique dans ce bâtiment, ça c'est sûr.
Parce que les institutions, la constitution est sacrée et sacralisée, et les bâtiments, les lieux de pouvoir... sont aussi sacralisés. C'est vrai que quand on regarde la Constitution, soit là, soit aux archives nationales, on y va comme dans, oui, Laurence, comme dans un sanctuaire. Les gens parlent doucement, on tient les enfants pour qu'ils ne fassent pas de bruit. Et donc, ça a été un choc terrible. Alors, c'est ça la bonne nouvelle. Le choc a amené les républicains, le leadership républicain, à faire quelque chose.
D'où, en effet, le choc que ça a été. Allons voir qu'ils étaient, ces manifestants qu'on a vus entrer dans le Capitole, qui ne se sont jamais cachés d'ailleurs, qui ont pris des selfies aussi ici et là, qui ont vraiment attiré l'attention de tout le monde, dont certains d'ailleurs, et c'est Amélie Perrier qui nous raconte ça. Et Amélie, on va commencer par l'un de ces personnages qui a forcément attiré l'œil de tout le monde pendant cette fameuse prise du Capitole à cause de son accoutrement.
Oui, il était coiffé d'une peau de bête avec des cornes de bison, torse nu pour laisser voir ses nombreux tatouages, le visage maquillé du drapeau américain. Dans le milieu, on le connaît, ce pseudo-viking. Il s'appelle Jake Angeli. On le surnomme Q Shaman. Yeah!
Thank you, President Trump! Thank you, Q!
Et le voici en mai dernier, en marge d'un rassemblement trumpiste à Phoenix. Il hurle « Merci Président Trump, merci Q !» Car ce Q, chaman, est un adepte de QAnon. Mouvance complotiste, pro-Trump. Ses membres croient qu'une guerre secrète a lieu entre leur héros, Donald Trump, et les élites implantées dans le gouvernement, dans les milieux financiers et les médias. Des élites accusées de crimes pédophiles et sataniques. La mouvance s'inspire des messages d'un certain Q, la lettre Q, anonyme. Il en poste depuis plus de 3 ans sur des forums conspirationnistes. Certains ont cru que ce chaman, c'était le chanteur Jamiroquai.
Good morning, world!
Et voilà Jamiroquai qui a publié ce démenti ce matin sur les réseaux sociaux. Certains d'entre vous pensent peut-être m'avoir vu à Washington la nuit dernière, mais je n'étais pas avec tous ces tarés. Fermez les guillemets. D'autres ont aussi pris Q Shaman pour un antifasciste. En tentant de décrypter ses tatouages, ils y voyaient une faucille et un marteau sur sa main. Des complotistes ont soutenu alors que les envahisseurs du Capitole étaient en fait des milices d'extrême-gauche déguisées en supporters de Trump. En fait, Q Shaman s'est tatoué sur la main le logo d'un jeu vidéo, Dishonored. Et pas de doute, ce n'est pas un antifasciste, c'est bien un complotiste trumpiste. D'ailleurs, son accoutrement peut aussi faire référence au dieu Wotan, divinité germanique qui a inspiré le wotanisme, un mouvement identitaire politique et religieux défendu par des sympathisants d'extrême droite, des nazis et des suprémacistes blancs.
Donc nous y voilà vraiment. Et d'ailleurs, les réseaux sociaux se sont enflammés cette nuit, Amélie, sur 2 manifestants à côté du chaman sur les photos.
Des tweets depuis supprimés par le réseau social. Twitter a aussi suspendu un grand nombre de comptes de complotistes d'extrême droite cette nuit, car tous soutenaient que c'était une mascarade des antifas. Mais d'autres internautes ont rapidement vérifié et comparé les photos. À côté de l'homme à tête de bison, effectivement, ils auraient identifié 2 néo-nazis, dont Matthew Heimbar, fondateur du Parti des Travailleurs Traditionalistes, néo-nazi, arrêté déjà pour violence. Il a été aussi excommunié de son église orthodoxe à cause de ses propos racistes. Et puis un autre manifestant porte, lui, un t-shirt « Camp Auschwitz ».
Eh ben voilà. On termine avec Newsmax, qui est une chaîne de télé américaine bien connue désormais depuis que Trump la regarde régulièrement. Très influente, une chaîne du câble, influente dans le milieu conservateur.
Et après la présidentielle, elle a relayé pas mal de théories du complot, surtout les fausses accusations de fraude, de machines truquées. Le patron de la chaîne, Christopher Rudy, est décrit par le Washington Post comme un ami du président Trump. Et quand on demandait à Christopher Rudy des explications sur la promotion sur son antenne des histoires de votes fraudulés, eh bien le patron répond que sa ligne éditoriale, c'est de soutenir le président. Parmi les présentateurs et éditorialistes qui ont tenu l'antenne la nuit dernière, il y a Grant Stinchfield. Dans sa biographie Twitter, il se présente comme un membre de la NRA, le lobby des armes. Il est également MAGA champion. Il défend le Make America Great Again, le slogan de Trump. Et cette nuit, il a voulu diffuser d'abord un florilège des autres chaînes de télé.
We've never seen anything like this before. We've never seen a breach where protesters have gotten that close to the building.
Unbelievable. We are televising the breach. Listen, by the way.
Voilà, il diffuse un montage de CNN, de MSNBC et même de Fox News où tous les journalistes parlent de breach, de violation de la loi, de la constitution, de l'enceinte du Capitole au moment de l'intrusion. Et voilà les réactions donc du journaliste de Newsmax.
Well, that is sensationalism.
Voilà, c'est du sensationnalisme. Il commente le souffle coupé comme si une apocalypse venait de se produire. Alors que ce soit bien clair, dit Stinchfield, est-ce mal? Vous avez intérêt à croire que c'est mal. Est-ce inacceptable? Bien sûr que c'est inacceptable. Et ensuite, le journaliste accuse les médias de dénoncer ces violences, mais pas celles des Antifa ou de ce qu'il appelle les émeutiers de Black Lives Matter, le mouvement contre les violences racistes. Voilà, c'est une vision parallèle, celle de l'Amérique de Trump, plus seulement celle de marginaux isolés. En tout cas, ils ont démontré hier leur force.
Merci beaucoup, Amélie.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Et on va rester ici un instant d'ailleurs avant d'accueillir Pierre Asquier et Jean Marfour qui sont là. C'est pas étonnant, Laurence Lardon, de voir ces gens-là. On a presque envie de dire, sans mauvais jeu de mots pour le gars cornu, que les masques tombent. Ce ne sont pas les supporters de Trump, de la classe moyenne, qui ont pu être attirés par certains discours en 2016. On a l'extrême droite, le white power, les suprémacistes. C'est les mêmes gars qu'on a vus à Charlottesville, par exemple, pendant les émeutes du début du mandat de Trump. C'est les mêmes.
Oui, absolument. Mais est-ce qu'on peut dire mais? Il faut dire mais, ils sont quand même très peu nombreux. Ils sont très visibles et ils ont une stratégie de communication assez décomplexée, on va dire. Mais ils représentent quelques milliers de personnes, donc actifs et nuisibles. Mais il faut peut-être pas non plus amalgamer. Il faut pas faire d'amalgame entre ces gens-là et tout l'électorat de Trump.
Absolument.
Qui est des classes moyennes et des conservateurs.
Et qui peut-être plutôt... se sont en partie trahis d'ailleurs par ce qui s'est passé hier. Vous vouliez ajouter quelque chose, Jeanne Desi?
Oui, je vois quand même une grande différence avec, par exemple, les conservateurs en 2010, le Tea Party. Ils étaient déguisés en républicains, si j'ose dire.
En révolutionnaires.
En révolutionnaires, voilà, exactement. Ouais. Là, je pense que la grande différence, c'est la montée en puissance des théories conspirationnistes et des sites conspirationnistes. Hein. QAnon a 3 ans et ça a beaucoup joué. Parce que parmi les gens qui étaient devant le Capitole, pas nécessairement les plus violents, beaucoup étaient convaincus lorsqu'on les interviewait qu'ils étaient là pour sauver les enfants victimes des pédophiles. Les pédophiles étant les démocrates, l'establishment, les médias, enfin tous ceux à qui Trump s'oppose. Et donc ça va être très très difficile de convaincre ces personnes, non seulement que Trump n'a pas gagné l'élection, mais les ramener dans un vrai monde, parce qu'ils sont pris dans leur bulle cognitive à cause de ces réseaux sociaux, à cause des théories du complot.
Je vous salue, Pierre Asquier, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Jean-Marc Four est arrivé aussi. Juste
bonsoir.
Un petit mot sur ces gens, Pierre Asquier, précisément. J'écoutais avec attention ce que vous disiez, notamment ce matin sur Inter. Évidemment qu'on est très loin de ce qu'a été l'électorat de Trump lorsqu'il a été élu en 2016. Et au fond, est-ce que ça veut dire que ce qui reste du populisme trumpiste, c'est ça, en fait? C'est ce qu'on a vu hier au Capitole.
Ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est qu'en fait, il n'a pas réussi à transformer ce capital politique qu'il avait gagné en 2016 avec cette intuition, en fait, de cette révolte anti-mondialisation, anti-délocalisation, enfin, de ces couches populaires qui se sentaient défavorisées par la mondialisation. Il avait ce capital politique. Il ne l'a pas transformé ni en action concrète en leur faveur, ni en mouvement politique. Et il se retrouve, au bout de 4 ans, avec ces zozos, parce que c'est quand même le terme qui s'impose. Et c'est cet effritement de ce capital politique, c'est un peu l'échec majeur de Trump, je trouve, à l'arrivée.
Et peut-être que l'intuition, c'était pas la sienne, hein, en fait, que c'était celle de ceux qui l'ont amené jusqu'ici, et que ce qui a pris le dessus, c'est l'énorme narcissisme qui a pris le dessus sur.
Il avait quand même là où il a eu une véritable intuition, c'était qu'il s'est présenté en antithèse d'Hillary Clinton, symbole de l'establishment et de la mondialisation heureuse.
Jean-Marc Four, bonsoir.
Sauf que quand même les zozos, c'est vrai, le gars avec le Q-shaman avec ses cornes et sa toque de castor. Okay, tout ça paraît comme une pantalonnade, mais il y a quand même s'il ne représente pas évidemment le cœur de l'électorat de Trump, il y a quand même des groupuscules là-dedans qui sont dangereux, des vrais gars dangereux. Alors ils sont quelques milliers, dont acte, pas plus probablement, mais ils sont dangereux. Souvenons-nous quand même qu'il y a quelques mois, il y avait l'un de ces groupes, je crois que c'était les Wolverine Watchmen, ils avaient commencé à monter les marches du Capitole du Michigan, et ils avaient projeté d'enlever et d'assassiner la gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer. meurt. Mm-hmm. Donc c'est quand même des gars dangereux.
Et on a trouvé deux engins explosifs par ailleurs au Capitole. C'est quand même, ils ont été désamorcés, mais enfin il y a eu ces deux engins explosifs.
Et on peut remonter encore plus loin à l'attentat d'Oklahoma City. C'était dans les années 90.
Et on le relevait il y a quelques jours, quelques semaines ici même, hein, le Global Terrorism Index, qui c'est cet institut australien qui recense les actes de terrorisme dans le monde, a noté que aux États-Unis aujourd'hui, le terrorisme qui menace la société, c'est le terrorisme d'extrême droite. Les actes d'assassinat et de meurtre, c'est du terrorisme d'extrême droite.
Alors on disait tout à l'heure avec Laurence Nardon et avec Anne Desine combien Biden avait peut-être au positif une forme de boulevard parce que désormais il y avait un certain nombre de choses à rétablir et que ce serait peut-être plus facile pour lui avec cette perspective de remettre cette démocratie en marche. C'est peut-être vrai à l'intérieur, Pierre Aski. Est-ce que c'est aussi vrai à l'extérieur? Parce qu'on a quand même vu rigoler beaucoup de monde, entre hier et aujourd'hui. Enfin, si je suis iranienne aujourd'hui, si je suis vénézuélienne, si je suis chinoise ou russe, j'ai passé une bonne soirée. On va le dire
comme
ça.
Si vous êtes un dirigeant de ces pays, d'accord. Effectivement. Mais c'est évident et ça s'est vu dans un certain nombre de commentaires publics. Avec, je voudrais donner juste un exemple, mais le pouvoir chinois a surfé sur un cadeau qui lui était offert sur un plateau. C'est que il y a 18 mois, le Parlement de Hong Kong a été envahi par des manifestants qui l'ont saccagé. Et donc aujourd'hui, vous êtes à Pékin et vous dites mais il y a deux poids deux mesures. Quand c'était nous qui étions victimes d'un parlement saccagé, vous avez crié à l'atteinte parce qu'on a réprimé les gens, vous avez crié à l'atteinte à la démocratie. Et aujourd'hui, c'est vous qui êtes victime et ce sont des criminels. Et même si ça fait peu, l'analyse est un peu juste parce que les manifestants de Hong Kong réclamaient plus de démocratie, ceux de Washington voulaient arrêter un processus démocratique. Donc, mais on est là, c'est dans une analyse trop complexe. C'est un cadeau qui est offert aux dictateurs de tous les pays. Les Iraniens, c'est le président Rouhani lui-même qui a dit vous voyez bien que la démocratie c'est faible, etc. Les Russes ont dit mais on sait très bien que l'élection a été volée à Trump. Enfin bref, on a un festival aujourd'hui et le travail de Biden va être compliqué parce que il était parti sur un programme très pro-démocratie. Il voulait faire un sommet dans les 6 mois, un sommet une alliance des démocraties mondiales, etc. Je ne pense pas qu'aujourd'hui il soit en mesure de construire une stratégie mondiale sur cette base-là.
Ça conforte nombre de dirigeants, et notamment les dirigeants chinois, et notamment le président chinois Xi Jinping, dans l'idée que le modèle occidental est en déclin, qu'il est en décadence, et que le modèle d'avenir, c'est ce modèle de type chinois, c'est-à-dire ce mélange, on va dire, d'autoritarisme et de croissance économique, pour faire vite. Et Xi Jinping est probablement intimement convaincu qu'il a raison. Et bon nombre d'autres dirigeants le sont également. Quand Hassan Rouhani dit c'est le déclin, la fragilité de la démocratie occidentale, c'est pareil. Donc ça va plus loin, c'est-à-dire que ça apporte de l'eau au moulin à cette conviction bien ancrée dans certains dirigeants ailleurs dans la planète que le modèle de démocratie pluraliste occidentale incarné longtemps par les États-Unis est un modèle, en fin de compte, quasi périmé.
À un moment, pardon si je peux compléter,
non, je vous en prie.
À un moment où où il y a une alternative qui s'est proposée, qui est celle de ce système illibéral, autoritaire, voire dictatorial, mais qui jusqu'à présent ne se présentait pas en alternative. Il faut se souvenir, après la guerre froide, il n'y avait plus qu'un seul modèle, c'était la fin de l'histoire, c'était la démocratie libérale. Aujourd'hui, vous avez la Turquie, la Hongrie, un certain nombre de pays qui se revendiquent de cet illibéralisme et qui aujourd'hui, effectivement, se retrouvent confortés par une crise de la démocratie américaine qu'on n'imaginait pas et qu'eux-mêmes, sans doute, n'imaginaient pas.
Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a ceux qui se moquent, effectivement. Alors, de leur point de vue, on peut les comprendre. Il y a ceux qui disent rien. Il y a ceux, c'est le dernier des Mohicans, c'est Bolsonaro, ça vient de tomber, qui dit, qui relaie les accusations de faute de son allié, toujours, etc., et qui le soutient jusqu'au bout. Et on comprend pourquoi.
Évidemment, c'est le Trump des tropiques, Bolsonaro. Et à propos de Brésil, d'ailleurs, j'ai noté une remarque que je trouve assez révélatrice, très ironique, pleine de sarcasme, d'un commentateur politique assez connu au Brésil, qui s'appelle Felipe Neto, et qui a écrit sur Twitter « J'attends des États-Unis qu'ils interviennent militairement aux États-Unis pour rétablir la démocratie ». Et là, quelque part, tout est dit. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est toute cette ironie que peuvent aujourd'hui avoir toutes les personnes personnes dans tous les pays qui ont connu des interventions des États-Unis, que ce soit des interventions militaires ou que ce soit des interventions, on va dire, politiques indirectes.
Laurence Nardon d'abord et puis Pierre Aski. Mais justement, tout ça... Dans 15 jours, c'est fini. On va avoir une administration Biden qui effectivement devra se montrer humble et ne pas vouloir aller trop vite, mais va et donner de leçons à qui que ce soit, bien entendu. Mais on peut espérer que cette période si délétère dans la politique américaine s'achève et qu'on ait le retour à 2016, certainement pas. Les choses ont bougé, mais Biden a bien dit dans sa déclaration d'hier, il a dit le mot décence. D'essence politique, il l'a dit au moins 3 ou 4 fois dans sa courte allocution. On peut espérer que dans 6 mois, on puisse dire qu'il y a un début de retour au calme outre-Atlantique.
Mais
je vous propose cette.
Mais vous êtes très optimiste.
Et une alliance des démocraties, parce qu'il est très conscient de la contagion du mauvais exemple pendant le mandat de Trump et qu'il faut. Il y a des G7 en matière économique, il faut peut-être faire un G démocratique avec les démocraties en Asie, il y a quand même la Corée du Sud, le Japon, etc., et les démocraties en Europe.
C'est ce qu'il veut faire avec son projet de conférence dans les 6 mois dont Pierre a parlé.
J'allais dire, à contrario, vous avez la déclaration d'Emmanuel Macron pendant la nuit, qui le seul à s'être vraiment exprimé de cette manière assez solennelle, qui montrait bien que. Il ressentait lui aussi une attaque sur la démocratie américaine, le touche lui aussi, qui a incarné à un moment la défense de la démocratie libérale dans le camp occidental et qui sent bien qu'il est assis sur un sol extrêmement fragile.
Est-ce que ça veut dire qu'il faut que les 6 premiers mois, Biden fasse profil bas vis-à-vis de l'extérieur? Prenons des exemples.
Il va avoir du mal à donner des leçons aux autres.
Mais voilà, alors imaginez qu'il y a encore des manifestations en Biélorussie ou je ne sais quoi. Qu'est-ce qu'ils disent les Américains? Qu'est-ce qu'ils sortent comme carte à ce moment-là?
Il y a un exemple en ce moment, justement, à Hong Kong, puisqu'il y a eu cette semaine... l'un rafle qui a mis fin, en gros, à l'espace de liberté qui restait encore à Hong Kong et sur lequel les États-Unis, c'est encore l'administration Trump qui est aux manettes, mais les États-Unis auront très très peu de capacité de peser.
Mais l'Europe se retrouve avec un poids d'une certaine manière, j'allais presque dire une responsabilité, parce que comme les États-Unis sont décrédibilisés, en tout cas pour un temps, qui est-ce qui se retrouve comme porte-drapeau d'une certaine manière de la démocratie? Alors, il y a quelques pays asiatiques, c'est exact, mais enfin c'est essentiellement l'Europe, à elle d'en faire une chance, à la limite, et de porter ces valeurs-là. C'est une occasion d'une certaine façon.
Et quand on a eu cette discussion cet après-midi, je vous ai dit, est-ce qu'on va pas nous, les Européens, être obligés de aider les Américains à se remettre à ce niveau-là pour retrouver cette forme de crédibilité, Pierre Aski?
Je pense qu'on a une recherche commune d'introspection d'une certaine manière des failles de la démocratie aujourd'hui. Je pense que la démocratie ne peut être de servir d'exemple que si elle était elle-même exemplaire. Et c'est pas le cas aujourd'hui.
Il nous reste 8 secondes. J'ai une question subsidiaire. Faudra répondre très vite. S'il se passe quelque chose maintenant, entre maintenant et le 20 janvier dans 13 jours, qu'est-ce qui se passe? Si un attentat, quelque chose de grave? Laurence Nardon.
Un attentat aux États-Unis.
Ouais, s'il se passe quelque chose de vraiment très grave, il faut une intervention, un mot, des choses américaines. Il se passe quoi?
Mais je pense que là, avec ce qui s'est passé hier, Trump est de moins en moins, opérationnel. Et donc, on voit déjà le président élu Biden prendre la suite. Je pense que ce serait à lui de réagir.
Alors, la loi interdit spécifiquement jusqu'au 20 janvier. C'est très très compliqué. Il faut espérer qu'il n'y ait pas une décision.
C'est exactement ce que j'allais dire. Espérons plutôt qu'il ne se passera rien. Merci beaucoup. Merci vraiment à tous de votre participation. On y revient bien sûr dans le journal d'Anaïs dans une seconde.